le festival Détonation à Besançon du 29 septembre au 1er octobre. À l'affiche The Shoes, MHD, La Femme, General Electric ou encore Neve New Beaters. Rendez-vous sur pedromader.com. Et pendant le festival, restez branchés sur pedromader.com et à l'écoute de Radio Vintage sur le 103.4 à Vesoul pour vivre le festival de l'intérieur.
Et pour commencer ce plateau, on commence fort, on est avec General Electric.
Salut.
Bonsoir.
Salut, salut.
Comment ça va?
Ça va très bien.
Très bien.
Ravi d'être ici.
Nous aussi, on est ravis que tu sois là. Alors, première question, comment a commencé ton projet General Electric, parce que c'est un projet qui a quand même...
Qui est un projet qui date aussi. Ouais, j'ai commencé ça au moment où j'ai déménagé à San Francisco, et c'était en 99. Donc, c'était l'été 99. J'avais commencé un petit peu à bidouiller donc dans ma cave avec mon studio à Paris avant le déménagement, mais ça s'est vraiment concrétisé là-bas. L'idée, c'était de mélanger ce que je faisais moi dans d'autres groupes et dans d'autres formations avec d'autres artistes, c'est-à-dire jouer des claviers vintage de manière funk, tu vois, et puis avec l'amour que j'ai aussi pour l'écriture pop plutôt old school façon Beatles, Bowie, mélanger ça aussi avec la programmation rythmique hip-hop, des sonorités plus électro. C'était une espèce de défouloir en fait, si tu veux, et pour être tout à fait honnête, je pensais pas que je faisais un disque au début quand j'ai commencé ça, c'était vraiment juste pour parce que je sortais de deux ou trois expériences un petit peu deux ou trois expériences discographiques un petit peu décevantes, hein, et j'avais envie de juste m'éclater sans avoir à répondre de rien devant personne, si tu veux. Et puis il y a un morceau qui s'appelle Tu m'intrigues qui est tombé dans l'oreille d'un chef de label, hein, c'était Label Bleu à l'époque, un label de jazz de d'Amiens, et il a beaucoup aimé ça. Il m'a appelé, il m'a demandé si j'avais un album entier de ça. Je lui ai dit non. Donc il m'a dit finis l'album et nous on le sort. Et voilà, c'est comme ça que c'est né. Donc c'est né de manière très libre et vraiment en partant d'une envie. Et donc j'ai essayé de garder ça comme leitmotiv pour le projet au fur et à mesure des années, si tu veux. Donc tous les disques que j'ai fait, je les ai fait. Déjà, je les ai pas provoqués, je les ai laissés venir, hein, tu vois. Donc parfois, ça a mis du temps entre les disques, hein, parce que je fais aussi d'autres choses, d'autres projets, des collaborations, etc. Et puis surtout, j'ai jamais cherché à théoriser quoi que ce soit avec ma musique. Je fais les choses qui me viennent, quoi.
D'accord.
On va revenir sur le dernier album, bien sûr, mais vous venez d'en parler là de ce titre. Ça m'intrigue. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'en ce moment sur les réseaux sociaux, depuis quelques mois, on revoit sortir ce premier album. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en 2016, il revient comme ça devant et vous l'avez recommercialisé ?
Écoute, c'est une question. En fait, c'est une très bonne question et la réponse est toute bête. Il y avait un problème légal avec l'album. En fait, il était plus disponible parce que j'étais en procès avec le même label dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, le label a changé de main, il a fait faillite. Ça appartenait à une maison de la culture, la maison de la culture d'Amiens. Et figure-toi que la maison de la culture d'Amiens m'a poursuivi parce qu'ils considéraient que c'était eux qui devaient sortir le deuxième album Good City for Dreamers, sur lequel il y a Raid the Radio, etc. Alors que il n'y avait plus droit, si tu veux. Et on a finalement gagné le procès, mais ça a pris des années. Et donc, du coup, ce premier album était litigieux et on ne pouvait pas être dans le public. Donc c'est ressorti là, chez Vagram, mais j'en suis ravi.
D'accord, parce que moi ça m'a fait beaucoup rire, j'étais à une soirée lilloise il y a pas longtemps, et puis là il me dit « Ah, j'ai découvert une nouvelle chanson », et j'ai écouté la chanson, je me suis dit « Ben non, cette chanson en fait, elle est pas tant nouvelle que ça ».
Ah non, ça fait presque 20 ans, ouais, donc...
Par rapport aux instruments que tu utilises régulièrement, alors moi je suis venu te voir sur scène, c'était en début d'année, non, fin d'année 2015, à Lille, à l'Aéronef.
Ouais.
Et là j'ai vu un gymnaste sur son clavinet, j'ai vu un vibraphone, et là je me suis dit, mais c'est quand même pas souvent qu'en concert de rock on croise ces instruments-là. Alors comment c'est venu le goût pour ces instruments, pouvoir développer quelque chose de concret avec des instruments qu'on n'entend pas souvent concrètement dans des albums, et comment on les exploite, comment c'est venu?
Ça vient de manière assez naturelle en fait, ça vient au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de jouer avec d'autres gens, au fur et à mesure d'aller voir des concerts et puis de s'inspirer d'autres artistes aussi. Par exemple, l'utilisation du vibraphone, c'est quelque chose qui m'est venu alors non seulement en voyant tout ce qui en jouait, donc le gars qui joue du vibraphone avec General Electric sur scène, puisque dans les années 90 on s'était croisé plusieurs fois du temps où lui jouait avec un groupe de jazz funk qui s'appelait le Julien Louraud Groove Gang. Et moi, j'étais dans un groupe qui s'appelait Vert Coquin à l'époque, sur Paris. Et on se croisait pas mal et j'ai toujours beaucoup apprécié son jeu. Et j'ai aussi beaucoup été marqué par The Lounge Lizards, qui était un groupe d'art funk, art jazz funk new-yorkais du début des années 90. Le groupe de John Lurie, qui est un super saxophoniste. Et je les avais vus au New Morning, et dans sa formation, il y avait un vibraphoniste assez dément. Et j'avais beaucoup aimé le fait de voir cet instrument en live, qui est un instrument qu'on voit assez rarement, effectivement. Et là, en plus, c'était dans un contexte un petit peu jazz, quand même, si tu veux, et on le voit encore plus rarement dans un contexte rock. Je crois que le seul autre groupe qu'on a vu depuis 2009, on a fait beaucoup de concerts, tu vois, beaucoup de tournées. Le seul autre groupe qu'on a vu, c'était Calexico, avec un vibraphone. Donc c'est un instrument, effectivement, tu fais bien de le remarquer, assez inhabituel. Et j'aime bien la couleur que ça offre, et j'aime bien l'idée que c'est un petit peu comme un clavier, quand même, si tu veux. Ça répond au même principe des octaves, enfin des touches noires et des touches blanches, même si elles sont toutes de la même couleur sur le vibraphone, mais c'est vraiment, c'est comme l'octave du clavier. Et ça permet d'avoir un clavier supplémentaire sans que ce soit un clavier, si tu veux, et, que d'agrémenter d'un point de vue sonore les versions qu'on fait en live des morceaux de General Electric avec une autre couleur que les couleurs qu'il y a sur le disque, si tu veux. Ça me permettait aussi d'avoir quelque chose d'un petit peu orchestral, en fait, puisque sur les albums il y a des cordes sur certains morceaux, ou des arrangements de cuivres, etc. Ça permet d'avoir un instrument qui reprend ces arrangements là sans avoir des cordes ou des cuivres. Okay. Voilà. Et puis le clavinette, alors pour finir de répondre à ta question, ça c'est un instrument dont moi je joue, donc, et qui date de la fin des années 60, et qui a été popularisé par des gens comme Stevie Wonder ou Herbie Hancock, qui a la particularité de se prêter à un jeu très rythmique, puisqu'il y a des cordes à l'intérieur, comme des cordes de guitare électrique, et quand tu appuies sur la touche, ça vient taper la corde, donc ça fait ping ping, tu vois, donc ça, t'as envie de faire de la syncope, de faire quelque chose de funky avec, quoi, et ça se prête à mon jeu de clavier. J'ai tout de suite apprécié ce que ça faisait quand je mettais les mains dessus, donc voilà, j'ai enfoncé cette porte et j'ai foncé là-dedans, quoi.
Parce que c'est vrai que c'est devenu aussi un instrument, j'allais dire, aussi visuel et un peu une identité. Hervé Salters qui est en train de faire de la gymnastique sur son clavinet. Ouais. Ça, c'est l'image que j'ai gardée du concert.
Ouais. Alors après, le coup de la gymnastique, là, je peux pas trop te l'expliquer. Enfin, je crois que c'est quelque chose qui me vient assez naturellement. En fait, je suis quelqu'un de plutôt inhibé, tu vois, un peu timide. Donc l'idée de monter sur scène et d'être au centre de l'attention, c'est pas quelque chose de super naturel pour moi. J'ai dû pas mal bosser là-dessus, et assez rapidement je me suis dit, quand j'ai commencé à faire ça professionnellement, des claviers, et avant de faire General Electric, donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais, je me retrouve sur scène, soit je regarde mes pieds, soit j'y vais carrément, et donc regarder mes pieds, ça va être chiant pour tout le monde, donc je me suis dit, on va y aller carrément. Donc voilà, c'est venu de ça, l'idée de danser, sauter, puis de donner un vrai show, quoi.
C'est vrai, je trouve ça très intéressant que vous en parliez, justement, un peu de ce côté, de cette identité que vous avez, parce que dans les interviews, etc., on parle souvent donc de votre identité en tant qu'Hervé Salters, puis on parle de General Electric. Mmh. Et pendant le live en concert, vous avez dit moi j'étais Hervé Salters, ensemble on était General Electric. Alors ensemble, c'était qui? C'était vous sur scène avec vos musiciens? C'était le public? C'est quoi cette
limite? C'est tout le monde dans la salle. Pour moi, c'est un espèce d'événement qu'on crée tous ensemble, si tu veux. Je pense vraiment qu'un concert, c'est un espèce de tango. T'as le groupe et puis t'as le public et on danse ensemble, quoi. On crée l'événement ensemble. Personnellement, quand je suis dans le public et que je vois un groupe qui vient juste faire sa performance, mais qui a pas l'air de prendre en compte qu'il y a des gens devant avec qui interagir et avec qui l'énergie se crée. C'est pas juste le groupe qui crée l'énergie, c'est tous les gens qui sont là qui créent l'énergie qu'il y a dans cette salle. Pour moi, c'est un événement un peu unique qui a lieu soir après soir, et donc c'est pas le même General Electric que tu vois exactement à Besançon ce soir que ce que t'as vu hier à Savigny-le-Temple ou ce que tu vas voir à Boulogne-sur-Mer demain, tu vois. Et nous, nos prestations, elles changent un petit peu selon ce qui se passe dans le public. On va être plus ou moins inspiré selon le répondant qu'on a, plus ou moins énergique selon le répondant qu'on a. Et donc voilà, c'est pour ça que je dis ça. On a fait ça tous ensemble.
D'accord. Et puis du coup, l'album live qui va sortir très bientôt de To Be a Strangers, c'est quoi? C'est une version un peu normalisée? C'est une norme de ce que vous pouvez faire en live? C'est quoi exactement?
Qu'est-ce que tu veux dire par normaliser?
Vous me dites qu'à chaque fois, vous faites un live, c'est quelque chose de très finalement différent en fonction du public, etc.
Ouais.
Ici, c'est quoi? C'est un concentré de finalement ce qui pourrait vous résumer en live?
C'est juste des bonnes versions, des bonnes versions à différents concerts, des versions qui m'ont semblé inspirées, justement parce qu'il s'est passé un truc spécial, tu vois. On a enregistré beaucoup de concerts, en fait, pour arriver à cet album live, justement parce que on voulait mettre le doigt pour chacun de ces morceaux, mettre le doigt sur une version spéciale un soir particulier avec un public en particulier, et donc il faut enregistrer beaucoup de concerts pour que ce soit le cas. Et enfin, en tout cas, avec une formation comme General Electric, je sais pas comment font les autres, mais non, c'est pas une normalisation, non. Non, c'est plutôt on a essayé de que ce soit quoi ce qui peut se passer de mieux avec General Electric sur scène avec un public, quoi.
Ok. Et du coup, sur scène, vous êtes combien ?
On est 5 et ce sont les mêmes 4 musiciens qui se joignent à moi depuis 2009. Et donc, je pense que ça finit de répondre à ta question aussi. En fait, c'est autant les disques, je les fais seul et c'est un projet solo. Autant sur scène, ça devient vraiment un groupe et c'est une entité qui est pas. C'est pas juste des gars qui m'accompagnent, qui sont un peu transparents. Tu vois, ils ont chacun une personnalité très forte et c'est aussi pour ça que je les ai choisis.
Et ils sont dans d'autres projets.
Ils font aussi d'autres choses. Ouais, tout à fait, ouais. Et l'idée, c'est qu'ils s'investissent tous de cette musique de la manière dont moi je vais pouvoir m'investir dedans. Et donc, je leur laisse pas mal de marge de manœuvre. On réarrange les morceaux tous ensemble. On crée des versions qui sont assez différentes des versions du disque. Et c'est exprès, c'est quelque chose que j'aime, ça. Et puis, ils ont de la place pour s'exprimer, quoi.
Ok, tu fais tout seul, hein.
Sur disque. Ouais, alors maintenant je joue pas de violon, pas de cuivre, donc quand il y a des arrangements de cordes ou de cuivre, j'écris les arrangements et puis j'appelle d'autres, tu vois, des instrumentistes qui viennent jouer ça, mais sinon tout le reste, ouais, c'est moi, ouais. Mais bon, jouer tout seul, quand t'es claviériste, en fait, ça veut surtout juste dire jouer du clavier, tu sais, parce que tu peux faire les basses sur un synthé, tu vois, le clavinet, ça peut faire un petit peu l'effet d'une guitare, donc voilà, c'est. Et puis les batteries, elles sont programmées, en fait, donc ouais, voilà.
Ok. Et du coup, c'est quoi la suite pour toi ?
Beaucoup de concerts. La suite de la tournée, donc. Et puis, j'ai commencé à bosser sur le nouvel album, là, déjà. Donc, ça vient assez rapidement, ce qui est super. Je suis ravi. On parlait de ne faire ça que quand l'envie vient. Et là, c'est le cas. Donc, c'est chouette, ouais.
Déjà une idée de date de sortie ou...
De date précise, non. Enfin, je pense que ça va être. Je vais laisser quelques mois se passer entre la fin de cette tournée et puis la sortie du prochain, mais j'espère avoir terminé pour que ça puisse sortir début 2018. Ouais.
Ok. Est-ce que vous avez encore quelques questions à poser ?
Moi, pour terminer, si on veut.
Ouais.
Alors, moi, je vous demande donc. On vous associe régulièrement à des noms de villes, puisque vous voyagez beaucoup, et à chaque fois qu'on vous interviewe pour un album, finalement, il y a une localité dans le monde qui se part. Donc, quand vous vous ennuyez ou si vous n'avez plus d'inspiration, c'est qu'on déménage, on prend un billet d'avion.
C'est une très bonne question. Alors, personnellement, je crois vraiment, enfin, en tout cas pour moi, que l'inspiration est assez liée au mouvement, effectivement, et que, par exemple, là, d'être en tournée, de bouger, etc., je sens pas mal d'idées venir pour des morceaux, presque plus que quand je m'enferme dans le studio et que je suis en train de vraiment je suis un petit peu isolé, tu vois, un petit peu dans un mode solitaire. Le mouvement, ça aide. Alors maintenant, la nouvelle ville, non, on n'est pas obligé d'être dans une nouvelle ville à chaque fois, si tu veux. En fait, les trois premiers albums, ils sont tous sortis alors que j'habitais à San Francisco, mais... Le premier avait quand même, il y avait un peu de Paris dedans quand même, tu vois, parce que ça avait commencé, le travail là-dessus avait commencé quand même à Paris avant le déménagement à San Francisco. Mais le dernier, effectivement, c'est un disque berlinois, ouais, je l'ai fait complètement là-bas. Je pense pas que, littéralement parlant, ça se ressent dans la musique. Je me suis pas mis à faire de la techno minimale parce que j'habite à Berlin, si tu veux. Mais ceci dit, je pense que ça s'est infiltré dans la musique quand même du disque, dans le sens où Berlin est une ville assez radicale ou qui attire des artistes qui sont pas nécessairement des artistes intéressés par le commerce, mais plus par vraiment juste développer leur propre vision. Ça m'a conforté dans le fait de juste continuer à tracer ma route et faire mon propre truc, quoi.
Ok. Ok. San Francisco, Berlin. Pourquoi ces deux villes ?
Alors là, c'est juste une question de goût. Ouais. C'est-à-dire qu'on y est allé avec Sarah, ma femme, à San Francisco. On était partis en vacances, on a juste adoré, on a posé nos valises. En gros, on est reparti à Paris pour régler le déménagement, si tu veux. Et puis on est resté là-bas. Et Berlin, c'est un petit peu la même idée. En fait, c'était pendant la tournée de Parker Street. J'avais emmené Sarah et les enfants avec moi dans le bus, en fait, pendant un an. Et on est passé par Berlin. Et puis on a tous flashé. Et on avait envie de revenir en Europe. On savait pas trop où. Et on a retrouvé un petit peu une espèce de liberté qu'on avait trouvé à San Francisco en y arrivant au début. On la trouve moins maintenant, je suis obligé d'avouer. C'est devenu une ville très chère à cause de l'explosion de la Silicon Valley. C'est un petit peu compliqué maintenant là-bas. Mais ça reste très très beau. Hein, et c'est assez difficile à quitter d'ailleurs comme région parce que c'est fabuleux. Mais bref, on a retrouvé un truc à Berlin qu'on avait un petit peu perdu sur la côte ouest. Et donc voilà, on a bougé là-bas.
Parce que ce sont quand même deux villes qui sont fortes culturellement parlant.
Oui, absolument. Ouais. Oui, c'est des vrais aimants, indéniablement. Ouais.
C'est possible d'avoir un retour en France
Pourquoi pas. Mais j'ai pas l'impression d'avoir quitté la France, en fait, tu sais, parce que moi, je viens très souvent ici. Enfin, je suis en tournée la plupart de mes concerts se font en France quand même. C'est quand même ici que ça se passe le mieux pour General Electric. On tourne un peu partout dans le monde si tu veux, mais c'est vraiment ici que ça marche le mieux. Donc j'ai l'impression d'être toujours très français aussi, tu vois.
Ok. Eh ben, merci beaucoup, merci Hervé, beaucoup. De General Electric. Donc vous jouez à 20h, j'arrive pas à voir.
20h30, ouais.
20h30 à la scène Citadelle, la grande scène du festival Détonation. Donc venez tôt, chers auditeurs et auditrices.
À ne pas manquer.
Ouais, à ne pas manquer, parce qu'à ce qui paraît, c'est la folie.
Merci à tous.
Merci.
Merci.